Oui, bonsoir Tristan. Je commence direct ou en tout cas je voulais dire que j'appréciais ton émission et que j'avais appelé il y a quelques années pour un rêve. Et je suis très à l'écoute de tes réflexions et autour de ça, quoi.
Eh bien, merci Alain. Par contre, j'utilise le vous d'une façon générale avec les auditeurs, donc si ça ne vous gêne pas, je vous voirai.
D'accord, ok.
Eh bien,
ça marche.
Nous vous écoutons Alain.
Ok, alors je l'ai écrit, ce rêve il s'est passé à peu près 2 semaines, et je l'ai mis en écrit dès mon réveil, parce qu'il m'avait, il m'avait pas retourné, mais surtout, bon, je vais commencer, puis j'arrête mes commentaires. Le lieu, c'est un hangar rectangulaire presque carré, voilà, avec une porte vitrée métallisée et une grande baie vitrée métallisée, le tout dans un vieux style des années 80. Donc la porte est à gauche, le toit est plat, et les rebords sont saillants, ils dépassent de quelques 20 cm et sa superficie de 50 mètres carrés. L'espace autour du hangar est libre, il n'y a pas d'arbres, rien qu'un sol béton sur une surface de plus ou moins de 300 mètres carrés. Le hangar est au centre, il ressemble un peu comme ces vieilles stations essence de mon enfance. Derrière ce hangar, il y a un cercle au sol en béton avec rebord de 20 cm de haut. Voilà, comme s'il y avait eu un arbre planté au milieu. C'est ce que je ressens quand je suis à ce moment-là. Il reste juste une terre recouverte d'eau sombre, très sombre. J'ai vraiment cette image, je vois cette eau noire. Et là, je vois sur la vitre de l'intérieur de la pièce, parce que j'y retourne, où nous sommes, parce que je ne suis pas tout seul dans cet endroit. Donc à l'intérieur de la pièce où je suis avec d'autres gens, que je ne perçois pas distinctement, donc du côté gauche de la pièce, du côté gauche de la vitre, pardon, à hauteur d'homme, il y a une marque ou une égratignure qui m'interpelle. Alors je sors du hangar pour voir de l'autre côté, il n'y a rien de précis, mais ça continue à susciter ma curiosité. Je m'approche, je regarde, c'est comme écaillé, comme une peinture. Je commence un peu à gratter, ça s'effrite, un peu comme une pierre sableuse. Et pourtant c'est la vitre que je gratte. Je continue à gratter. Et on est plusieurs. On est intrigués, nous sommes intrigués. Je continue à gratter avec crainte et précaution. Le trou s'élargit de la taille d'un pouce. Et là, on commence... Pardon. Hein. Et là, on commence à avoir peur. Je ressens cette sensation de peur. C'est comme un malaise qui nous envahit tous. Ça fait peur, réellement. Je gratte, mais je n'ose pas aller plus loin de peur d'être happé par je ne sais quoi. Je rentre dans la pièce pour voir si le trou apparaît de l'autre côté, mais il n'y a rien. Donc je retourne de l'autre côté, le trou est toujours là. On est tous mal à l'aise. On prend un câble de fil électrique, classique, c'est un fil recouvert avec son plastique, comme ce qu'on utilise pour les systèmes électriques, pour les maisons. Et je courbe l'extrémité, un peu comme une boucle, sans faire de nœud. Je l'introduis à l'intérieur. Et de l'autre côté, il n'y a rien qui apparaît. Il y en a un autre qui prend le relais, le fil rentre, mais il ne sort pas de l'autre côté. Et là, on flippe, vraiment. Je fais le tour du petit hangar. Je m'approche du rebord en béton, derrière le petit hangar, où devait se trouver un arbre à cet endroit. Je perçois le bout du fil qui ressort. Je le saisis avec effroi, je suis mal à l'aise, mais je continue à tirer tout doucement. J'arrive au bout, il n'y a rien. Et là, le temps, il est comme suspendu, je ne comprends pas, mais je sais que le démon est présent, voilà mon sentiment. Je plonge ma main légèrement et avec crainte dans le cercle de béton, avec cette eau noire, car j'aperçois au bout un bout de fil câble. Un autre bout, je le saisis et je tire tout doucement. Je sens de la résistance à force de tirer dessus, sans force, mais quelque chose est au bout de ce fil. J'entends crier de l'autre côté. Je lâche le fil, je vais de l'autre côté où le fil avait été rentré, du côté du petit hangar, et là, où nous avons introduit le fil électrique, où nous avons tous mis, je dirais tous, parce que je ne suis pas le seul à avoir l'impression d'avoir fait. Et là, je vois avec horreur le corps d'un des nôtres pris de moitié à l'intérieur du trou. Il reste coincé, mais le trou est tout petit, mais lui est à l'intérieur. Il n'y a que son corps, ses jambes, son bassin, ses jambes qui sont à l'extérieur, et tout le reste est à l'intérieur. On est effrayé, son corps ne bouge pas, on ne comprend pas ce qui se passe, ce qui nous arrive, et là nous sommes figés. y a un de nous qui comprend que le démon est bien là. Il l'a vu. Il se rappelle de l'avoir aperçu pendant le tournage. C'est ce qui me vient à l'esprit après. Je me retrouve dans un tournage. Et l'image de sa mémoire m'est partagée et je vois ce qu'il voit, lui. Et là, je suis effrayé parce que je vois à travers son regard. Je deviens celui qui a vu. Et là, c'est un visage de femme, d'une vieille femme. Je perçois seulement la moitié de son visage comme caché derrière la vitre et le mur de l'intérieur, comme si elle se cachait pour nous observer. Elle est à l'intérieur, alors que nous sommes dehors, et je revois son visage, blanc, gris, comme un noir et blanc, elle est pâle. C'est comme un vieux film, très pixelisé, de mauvaise qualité. Et je revois la scène plusieurs fois et au ralenti. À chaque vision, il y a un zoom sur elle. Un peu comme si je voulais être sûr de ce que je vois est bien réel. Et là, j'ai froid dans le dos, mon sang se glace, l'image est effrayante. Le plan se répète plusieurs fois et de plus en plus gros et au ralenti. Et là, je la vois. Elle nous regardait, nous observait, sans que nous nous en doutions, ce qui se passait pendant le tournage. Je suis effrayé. Et là, on passe à un autre plan. Je me retrouve dans une autre salle. Là, nous sommes plusieurs dans une pièce, donnant directement accès à l'extérieur, pas loin du petit hangar. Nous avons tous peur. Là, il y a le réalisateur. Et le réalisateur, c'est quelqu'un que je connais depuis peu, avec qui j'ai tourné. Et avec nous, il est avec nous. Et nous sommes tous là pour passer à l'offensive, pour combattre ce démon, je pourrais dire. Il établit un plan pour le combattre ou le faire disparaître. Et là, il nous distribue des images d'évangiles, d'icônes liées à Dieu, des choses comme ça. Nous les passons les unes les uns aux autres. Nous devons les mettre, et ça, nous savons que nous devons les mettre sur le mur à l'intérieur du petit hangar pour faire fuir le démon. Et je veux une de ces images. J'en saisis une pour pouvoir la regarder et je m'aperçois qu'elles sont toutes noires. Je comprends pas, je focalise mon attention pour voir la représentation de ces icônes évangéliques et il n'y a rien que du noir, elles sont noires et restent noires. Et là, tout s'arrête.
Waouh.
Et je me suis levé ce matin et ce matin-là et j'étais mal à l'aise et je me dis mais et je me suis mis à l'écrire parce que je pouvais pas le retenir et c'était très important pour moi de je dirais c'est comme une première écriture voilà.
Ah ben, une composition pareille effectivement il ne fallait pas la laisser échapper.
Voilà.
Parce que dans un univers qui pourrait être David Lynch, Louis Buñuel, c'est avec une dimension encore plus cinéaste espagnol, celui qui a fait le labyrinthe de Pan.
Ok, ça me parle ça.
Maurice, je ne sais plus. Mais là, quelle imagerie, quelle imagination aussi. Parce que là, vous avez un psychisme qui est un terreau extrêmement fertile. Alors, je ne suis pas sûr de bien tout comprendre, et donc j'aurais besoin d'avoir quelques points d'éclaircissement, parce que la topologie, c'est très difficile pour moi, la spatialisation, c'est très difficile de voir. Tout ce que je vois, c'est que vous sortez du hangar, où vous étiez, et vous commencez à creuser à l'extérieur.
C'est ça.
Pour entrer, finalement, d'une autre manière par le hangar. Avec ce trou que vous creusez.
Oui. C'est comme si vous grattiez un bout de peinture et quelque chose, et, voilà. Et ça s'effrite.
Le trou dans le bitume, ou je ne sais pas quoi, il est à combien de mètres de là ?
Lequel ? Parce qu'il y a celui du hangar où je gratte.
Voilà, et celui où ressort le fil électrique que vous attrapez.
Alors, c'est ces ronds en béton de 20 cm de haut où, je dirais, il y a quelque chose d'ancien dans tout cet endroit. Il y a quelque chose des années 80, de toute cette architecture des années 80, où tout était en béton. Et ce rond est derrière, comme s'il y avait eu un arbre. Mais il n'y en a plus.
Ah,
et donc, il reste de l'eau, des choses qui croupissent.
D'accord. Donc, ce serait une espèce de cercle où il y aurait pu y avoir un arbre.
Exact.
Effectivement, qui donnerait accès à la terre. Et c'est à combien de mètres à peu près du trou de la fenêtre ?
C'est peut-être à 2-3 mètres derrière, pas plus.
Ah oui, d'accord. Mais en tout cas...
Du bâtiment, pas de la fenêtre, du bâtiment.
Du bâtiment. Et donc, en tout cas, on pourrait penser que ces deux trous communiquent.
En quelque sorte, oui.
Parce que là, on pourrait aussi imaginer que le coéquipier, ou je ne sais pas qui, parce que vous dites « nous », alors qu'au début, vous avez dit « je ».
Oui.
Donc tout d'un coup, il y a une notion de groupe. On pourrait imaginer qu'un des membres du groupe est aspiré dans le trou quand vous tirez le câble.
Exactement. Comme mais il y a un premier, je tire un premier câble où il n'y a rien et je m'aperçois qu'il y en a encore un bout. C'est là que je tire et je sens de la résistance.
Parce que là, on pourrait donc imaginer que c'est un trou de verre.
Un trou de verre, comment ça?
Dans l'espace, vous savez, il y a des trous qui pourraient communiquer okay, d'une dimension à une autre.
Exactement, tout à fait.
Et donc on a cette notion de trou qui communique, parce que là, c'est complètement illogique. Mais c'est
on
comme si
vous
passiez par une autre dimension, comment ça s'appelle, une discontinuité dans le continuum espace-temps.
Ouais, tout à fait, ok. Je voulais faire aussi une précision, c'est que cet endroit...
C'est un vortex, voilà, ça s'appelle un vortex.
Voilà, alors ce qui est drôle aussi, c'est que cet endroit où je suis, l'impression d'être désert, mais il ne l'est pas, je sais que je suis en ville... il fait nuit, mais c'est pas la nuit, c'est comme une journée d'hiver où la nuit arrive vite, il fait pas froid. Je sais que la ville est là autour, les bâtiments sont là, comme une grande ville parisienne ou lyonnaise, mais c'est vide là où nous sommes. Mais je sais qu'il existe, la vie est autour.
D'accord, donc vous la sentez effectivement palpiter autour de vous.
Voilà, mais elle n'a aucun bruit, il n'y a aucun son, il n'y a aucun signe qui pourrait... il n'y a aucune image dans le rêve comme quoi il y a du mouvement. Mais
c'est un ressenti.
Voilà.
Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'effrayant dans ce visage de femme?
C'est la mort. C'est pas la mort. C'est un fantôme. Il y a quelque chose de fantomatique, comme un... Gérard, est-ce que c'est pas des références aussi à ce qui m'intéresse? J'aime les choses un peu. J'aime les histoires qui font peur. Voilà. J'aime bien les histoires qui font peur, qu'elles soient cinématographiques ou en livre. J'aime les histoires qui font peur. Et je trouve que c'est un cliché de... Je me suis dit que c'était un cliché de quelque chose que j'aime, que j'aime jouer pour m'effrayer en quelque sorte.
Un archétype du féminin négatif.
Peut-être, ouais. La sorcière.
Entre la sorcière et le fantôme, le revenant.
On voit exactement. Et elle est en noir et blanc, comme un vieux film, très pixelé. Comme si vous aviez une vieille caméra, puis d'un coup, vous apercevez que vous avez filmé une scène, et vous êtes en vacances, et puis d'un coup, vous dites il y a quoi dans le coin? Et là, vous faites un zoom, et vous percevez qu'il y a quelque chose qui est caché derrière et qui vous observait.
Mais donc, ce serait une image projetée.
Comment ça, projetée?
Bah, si c'est une image où il y a du grain, que ce soit
ouais.
Du grain argentique ou du pixel, c'est une projection.
Ouais, ouais. Mais sauf que c'est pas mon image à moi, c'est celui de la personne qui est à côté de moi et qui me dit « mais j'ai vu, je sais ce qu'il y a ». Et c'est marrant, et sa vision à lui, donc sa pensée, ce qu'il a vu, c'est moi qui l'obtiens. Et là, je vois ce que lui, il a vu. Et je me fais comme si je me faisais un plan rapproché à chaque fois, pour pouvoir observer ce qui se passe.
Et pourquoi vous avez cette conscience du diable à un moment donné ?
Je sais pas. Aucune idée. Peut-être que j'aime les choses qui me font peur, peut-être aussi...
Non, mais dans le rêve. Parce que là, effectivement, si ce rêve met en scène votre imaginaire, c'est normal qu'il corresponde. Puisque là, on est dans le monde de vos fantasmes.
Tout à fait.
Hein, ces fantasmes, par contre, ils ont une origine. Et donc, qui ensuite distribue des icônes évangéliques?
Alors, le réalisateur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, parce que je fais un lien aussi, c'est que je viens de changer ma vie. Il y a 5 ans, j'ai pris un tournant dans ma vie, il y a 5-6 ans, et énormément de choses ont changé, j'ai réparé énormément de choses, j'ai une vision de la vie très positive. Et j'ai tourné il n'y a pas longtemps donc avec ce personnage, ce jeune réalisateur qui a tourné un court-métrage, et j'ai tourné avec lui, et c'était lui. Voilà.
Ah,
il y avait qu'une identité bien réelle.
Voilà, je n'ai pas besoin d'autant d'éléments, vous m'en donnez trop.
Pardon.
Donc effectivement, c'est un réalisateur avec lequel vous avez tourné, qui existe réellement, vous l'avez dit d'ailleurs dans le rêve.
Oui.
Mais ma question, c'est bien lui qui distribue ses icônes.
Oui, tout à fait. Comme s'il y avait un plan d'attaque. Dans le rêve, c'était ça. Il y a un plan d'attaque, il faut éliminer ce démon.
Voilà. Et donc, vous vous sentez protégé dès que vous avez ces icônes en main?
Non, pas du tout. Non, j'ai peur. J'ai toujours comme on dit, on a le sens, le, oui, Je sens qu'il se glace, froid dans le dos, je suis mal à l'aise. Je sais que c'est pas bon, j'ai peur. Au fond de moi, j'ai peur.
Mais voilà, mais pourquoi auriez-vous peur alors que vous produisez l'antidote ?
Parce que je crois que dans ma vie, j'ai toujours eu des doutes.
Oui, tout à fait, mais là, dans le rêve, il y a l'antidote précise qui est... Puisque si ce sont des formes sataniques qui sont évoquées, pour vous protéger du mal, effectivement, c'est des formes positives, allouées donc au contraire au saint.
C'est d'affronter, je pense. C'est d'affronter. Je crois que j'ai peur pour... parce qu'il faut retourner dans cet espace. Voilà, c'est ça.
Bah ça, c'est magnifique. Mais alors, par contre, comment se termine le rêve ? Sur ces images ?
Sur ces images, j'ai une des photos, parce qu'on est là autour de, d'une table, une table un peu longue, et là, on se distribue, puis là, j'en veux une, je veux voir, parce que je sais qu'il faut aller les poser, mais je suis terrorisé à l'idée d'aller les poser, et je veux voir c'est quoi ces images, et je sais quelles sont la représentation... quand je dis évangélique, ça peut être la Sainte Vierge ou le petit Jésus ou Jésus sur la croix, des choses comme ça.
On dira donc des images saintes.
Voilà, exactement. Et j'en saisis une pour voir quel genre d'image c'est, et là, elles sont noires. Noires, mais un noir opaque.
Ah d'accord, donc il n'y a aucune représentation dessus.
Non.
Ok, mais il y a donc quelque chose qui opacifie votre vision malgré le grattage qui a commencé.
Redites-moi ça.
Il y a quelque chose qui opacifie votre vision, malgré le grattage que vous avez commencé.
Tout à fait.
Parce que là, la première dynamique que l'on voit, c'est cette curiosité qui vous pousse dehors.
Tout à fait, oui.
Et donc ça, c'est magnifique parce que le hangar représente une construction psychique sommaire, un élément d'où vous sortez pour prendre contact avec le monde réel. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à dire « nous ».
Exact.
Avant, vous étiez dans le jeu et donc les autres apparaissent à ce moment-là. Donc on voit que vous faites un lien avec le monde.
Uh-huh.
Et c'est une belle dynamique, très positive. Et par contre, vous voulez voir pourquoi vous vous étiez enfermé. Puisque là, vous essayez de regarder à l'intérieur. Parce que je trouve ça assez magique, assez magnifique, cette mise en perspective que vous faites. Je sors de l'endroit où je suis et je plonge un œil dans cet endroit où, effectivement, je ne vois rien. Et quand vous introduisez ce fil, donc cette espèce de cordon, là on pourrait revenir au fil d'Ariane qu'on évoquait tout à l'heure, mais en tout cas une volonté de conductibilité, puisque vous ne savez pas où ça mène, mais par contre vous utilisez du câble électrique.
Oui, tout à fait.
Je ne vous demanderai pas si c'est du 1,5 ou du 2,5, mais...
Je ne peux pas vous dire, mais c'est des...
Mais donc du cuivre, qui est un excellent conducteur.
Mais en plus, il est... Waouh, d'accord, ok. Et en plus, il a sa gaine électrique, donc il est fin. C'est vraiment ce qu'on utilise pour... ceux qui sortent pour les ampoules, des plafonniers ou des...
Bon, on va dire du 1,5, alors.
Et je le courbe, seulement. Je courbe l'extrémité.
Mais donc, avec une volonté de crocheter quelque chose.
Pour avoir l'impression que ça va être plus facile à rentrer. Et parce que je pense que quand on courbe, on a une plus... ça évite que l'extrémité, si elle est telle qu'elle, elle peut s'accrocher. Et donc le fait de le courber, ça lui donne une douceur pour pouvoir mieux s'infiltrer. Et comme ça, si j'avais à bouger, je dirais, c'est voilà ce que le fait de vous dire que vous relevez ce genre de choses me fait prendre encore plus de conscience. Je le cours vraiment parce que je sais qu'il n'y aura pas d'accroche.
Oui, mais vous faites une boucle, donc au bout.
Je cours, c'est pas ouais, c'est une boucle, mais qui se ferme pas.
Oui, donc ça fait un hameçon. Ça fait un crochet.
Voilà, c'est ça.
Puisque là, c'est n'importe quel bricoleur a utilisé un fil électrique comme ça pour aller chercher quelque chose au fond du lavabo ou un endroit inaccessible.
Tout à fait.
Donc il y a une volonté d'attraper quelque chose.
Mais je ne ressens pas ça dans le rêve.
Non, effectivement, parce que ce n'était pas conscientisé, mais il y a une gestuelle qui est typique.
D'accord.
Et ensuite, donc là... ça communique miraculeusement, parce que même si vous ne faites pas le lien, on ne peut pas s'empêcher de le faire, ça communique avec ce trou où il y a pu y avoir un arbre autrefois. Et quand vous tirez dessus, vous absorbez la figure qui va rentrer dans ce trou minuscule. Donc là, on est effectivement dans une dimension très surréaliste. Mais effectivement, cet espace que vous croyez communiquer avec l'être intérieur, il est plus probable qu'il communique avec la mer. Puisque vous avez accès à la terre, vous avez accès à l'eau, un orifice et donc une cavité dans laquelle effectivement vous découvrez quelque chose et là il y a un cordon qui serait à couper qui vous maintient avec une projection négative de la mer.
Ah, c'est clair et net.
Voilà, donc
j'en ris parce que j'arrive à rire aujourd'hui du combat mené avec moi-même.
Mais donc la représentation maternelle est quand même très peu rassurante, effrayante.
Ah oui, oui, carrément, oui, tout à fait, c'est mon histoire, donc...
Oui, et il y a une fascination pour cette histoire.
Ah, carrément, ouais.
Oui, puisque à la fin, vous, sachant que la pensée est créatrice, vous auriez très bien pu voir des images saintes. Mais l'image sainte renvoie effectivement à une notion de féminin qui n'est pas encore recevable en tant qu'élément positif.
Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça, tout à fait. L'image, si je peux me permettre, l'image maternelle n'est pas du tout positive de mon côté, comme l'image paternelle.
Bah, l'image paternelle, c'est le diable.
Ok. Donc, mais lui, j'ai réglé des choses avec lui.
Bah, en tout cas, ça vous a permis de développer un imaginaire extraordinaire, donc effectivement peuplé de fantômes, de choses terrorisantes, mais je dirais même qu'il y a une complaisance de votre part à jouer avec ces images. Et quand vous ne faites pas apparaître les icônes, les images pieuses ou saintes, c'est comme si, effectivement, vous préféreriez encore jouer avec ces négatifs.
Ouais, tout à fait.
Et qu'il serait très probable que vous puissiez bientôt les révéler.
Alors, qu'est-ce que vous appelez par les révéler ?
Ben, là, on est face à des négatifs. Donc, des éléments négatifs que vous pourriez très très bien révéler et mettre en forme. Donc, on peut supposer que votre névrose est quand même le support de votre création. Oui. Là, avec un scénario pareil, avec une capacité d'imaginer des choses aussi extraordinaires, parce que, je ne sais pas pour les auditeurs, mais moi j'ai suivi vraiment avec beaucoup de fascination les images que vous mettiez en place. C'est fabuleux, c'est ce trou qui ne communique, qui donne nulle part. Effectivement, c'est une source d'angoisse profonde, mais avec laquelle on jubile.
Ok.
Et donc, vous-même, vous jubilez avec.
Mais oui, parce que je rigole de ma propre détresse, et je dirais que c'est... J'ai tellement tout réglé, je dirais, je suis arrivé à un stade aujourd'hui où il me reste qu'une seule arme, c'est l'amour et l'humour. Et aujourd'hui, je suis, je dirais, je suis vraiment, mais vraiment heureux.
Alors, l'amour et l'humour sont un peu étrangers à ce rêve.
Oui, mais tout à fait, mais c'est ce que vous me dites qui me renvoie, je dirais, quand je vous écoute, je vois le chemin parcouru et je vois à quel point j'en ai pleuré, j'ai souffert, c'était vraiment une putain de vie de merde, excusez-moi de le dire comme ça. Et qu'aujourd'hui, j'ai construit ce qui m'a détruit, dans lequel j'ai grandi, dites-moi s'il ne faut pas que j'aille dans les détails, mais et tout ce que vous dites me ramène à ça en vérité, et ça fait écho.
Ça fait écho, mais c'est aussi un monde dans lequel, duquel, vous êtes en train de sortir. Vous sortez de l'enfermement, mais il y a une fascination, effectivement, pour cette source d'inspiration infinie.
Exactement.
Puisque là, l'imaginaire de l'enfant a dû se mettre énormément en place, et vous avez aujourd'hui, donc, un terreau. Vous avez quelque chose d'extraordinaire que vous contemplez, puisque vous êtes capable d'altérer la réalité et de jouer avec les lois physiques que vous transformer complètement. Vous inversez les lois physiques, vous créez des vortex, vous créez des apparitions, vous jouez à vous faire peur, vous contemplez votre œuvre. Et il y a une fascination qui est vraiment très très présente. Mais vous pourriez en sortir, vous avez les moyens. Mais par contre, effectivement, il faut que vous révéliez. Et ce qui a été pour vous un terreau énorme de création, vous pouvez le mettre en lumière, vous pouvez le mettre en application. Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous créez autour de ça ?
Alors, j'écris pas, mais je crée aujourd'hui. J'arrive à créer avec moi-même et j'arrive à utiliser... là, je suis en train de... Mais, je suis en train... Ah, comment vous le dire ? La sérendipité, ça vous parle ?
La quoi ?
La sérendipité.
Non, un mot nouveau, chic. Donnez-nous le sens.
Voilà, je l'ai découvert il y a de ça d'un an. C'est lié au hasard. Et je sais que pour moi, je ne crois pas au hasard. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Après pas mal d'expériences, c'est la sérendipité liée au hasard. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où l'exemple est, je me promène dans les bois avec mon chien, et il a plein de trucs qui sont accrochés à ses poils. Et au lieu de gueuler et de me dire « Ah, fais chier, c'est quoi ce bordel ?» j'ai plutôt observé ce qui s'est passé. Et là, je vais trouver quelque chose avec et je vais l'utiliser. Donc c'est lié au hasard, plus vos connaissances que vous avez en vous, mais qui ne sont pas spécialement dévoilées ou qui sont latentes.
Donc
ça vous permet d'utiliser ce qui vous arrive avec le hasard et d'utiliser avec ce que vous êtes vous.
D'accord.
Est-ce que je suis assez clair ?
Donc on pourrait parler d'opportunité.
En quelque sorte. Et il y a eu des inventions qui sont comme le velcro, des choses comme ça, le scratch, c'est de la sérendipité.
Sérendipité, voilà. C'est ça ?
Sérendipité, ouais. Et j'ai découvert ce mot par quelqu'un et je l'ai redécouvert peu de temps après sur un magazine. Le jour où je découvre, deux jours après, je tombe sur un magazine qui en parle et je suis en plein dans cette énergie.
Voilà, ça s'appelle la synchronicité.
D'accord, ok.
La récurrence des hasards.
Voilà, et je suis en plein dedans. Donc j'utilise, je dirais, instinctivement ce que j'ai acquis avec les années, ce qui m'a toujours parlé depuis mon enfance. Et aujourd'hui, je m'autorise, et ce que j'appelle vraiment m'autoriser, j'autorise à être ce que je suis.
D'accord. Alors, vous parlez donc de l'humour et de l'amour.
Uh-huh.
Dans le rêve, effectivement, il en est exempt. Mais...
Tout à fait.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait ce qui vous permet de révéler ? Puisqu'aujourd'hui, vous jonglez avec ces figures, vous jouez avec donc ces images négatives. Mais on voit aujourd'hui quel esprit brillant vous produisez, on voit effectivement la facilité d'élocution que vous avez, l'esprit qui est quand même très fin. Est-ce que vous ne pensez pas que vous leur devez de l'amour maintenant à ces parents maltraitants qui vous ont permis ?
Pas encore, je leur ai donné du pardon, mais j'arrive plus. Là, je suis en phase...
Oui, mais ce que vous êtes aujourd'hui, quand même, le résultat de la confrontation de l'individu, donc de votre sensibilité, par rapport au milieu dans lequel vous avez réagi. Et ce que vous nous montrez aujourd'hui, ce que vous produisez, est quand même assez brillant, fascinant. Et donc, pourquoi vous ne les aimeriez pas aujourd'hui ? Parce qu'ils vous ont permis d'être ce que vous êtes.
Parce qu'aujourd'hui, je donne cet amour, je dirais pour pas me perdre, je donne cet amour à la famille que j'ai réussi à construire et que j'ai détruit il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, que j'ai explosé et que j'ai réussi à reconstruire de toute, on va dire, mon âme profonde. Et cet amour que j'ai là pour mon fils et ma femme, c'est à eux d'abord que je réserve et à nous.
Oui.
Pour pouvoir après peut-être le redistribuer à ma mère et à mon père.
J'entends bien, mais il est probable que vous vous révéleriez davantage si vous aviez, puisque vous parlez donc de « il n'y a pas de hasard
uh-huh. ».
Donc là, on me dit que le mot originel, c'est « serendipity » en anglais.
Serendipité, ouais.
Et en français, ça donne « serendipité », d'accord ? C'est ça ?
Ça donne quoi ?
On me dit que le mot originel, c'est « serendipity », donc j'imagine que c'est un mot anglais.
D'accord.
Et que c'est une traduction, mais bon, effectivement, qui est parlante pour vous, il n'y a pas de hasard.
Tout à fait.
Et donc, est-ce que vous pensez que vous ne deviez pas passer par la case de vos parents pour pouvoir être ce que vous êtes aujourd'hui, et que l'amour étant un champ immense, infini, ça n'en retirerait pas à votre femme ou à vos enfants ?
On est d'accord, oui. Ouais, ok. Ce que je veux dire, c'est que j'ai du pardon, j'ai de la, comment on appelle ça, je pourrais dire de la...
De la compassion.
De la compassion, mais je ne peux pas leur donner cet amour que je veux m'octroyer, est-ce que le bon m'octroyer est correct, je ne sais pas, mais que je m'autorise à aimer ce que je suis moi-même, m'aimer en vérité moi-même.
Non, parce que là,
je me suis haï pratiquement tout
à fait, mais dans le rêve, vous entretenez une sorte de névrose, comme si c'était un terreau créatif, ce qui est souvent le cas. Mais maintenant que cette forme est en place, que cette structure est là, vous pourriez lâcher l'affaire et donc leur donner un amour, mais pas forcément un amour paternel ou maternel, mais simplement un amour parce qu'ils vous ont permis de devenir ce que vous êtes aussi.
C'est clair, parce qu'il paraît-il qu'on choisit là où on va.
Voilà, donc si vous entrez dans ce concept, si c'est vous qui les avez choisis,
c'est
que vous saviez que vous avez emprunté ce chemin.
Tout à fait.
Et qu'aujourd'hui vous êtes capable de révéler votre vraie nature. Et d'aller dans un sentiment donc d'amour infini qui pourrait être un sentiment spirituel puisque vous évoquez des icônes évangéliques.
Exact. Oui, tout à fait. Ça résonne énormément ce que vous dites et ça me permet de... Je crois que j'ai besoin encore d'une étape, c'est en train d'avancer à petits pas. Pour un détail, je pense que j'ai besoin de vous le dire. Je viens d'apprendre que cette mère que je n'appelle plus maman, que je ne peux pas, pourtant je suis en dialogue avec elle de temps en temps au téléphone, a à un cancer du cerveau et des poumons. Et quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis aperçu qu'au fond de moi, je n'ai pas été peiné, je n'ai pas eu de peine. Mais pas du tout. J'ai pas trouvé de tristesse. Moi, c'est pas que j'en ai pas trouvé. Il n'y a aucune tristesse, aucune peine qui s'est révélée à moi. J'étais à l'écoute. Je me suis dit, ah, on en est là. Et je me suis demandé qu'est-ce que je devais faire à ce moment-là. Donc je l'écoute, on s'appelle de temps en temps.
Oui, mais, donc,
mais j'attends en vérité.
Vous pouvez entrer dans une forme d'amour qui n'est pas de l'amour filial, qui est de l'amour pour l'autre humain.
Mais j'y arrive pas encore là.
Si, puisque là le réalisateur c'est vous aussi.
Ah,
et si vous voulez vous réaliser réellement, il y a donc quelque chose que vous pourriez lâcher et ouvrir surtout cette dimension. Qui est celle du cœur, donc, pour être en cohérent avec le discours que vous tenez, il n'y a pas de hasard, donc c'est vous qui les avez choisis, donc vous les avez aimés.
Donc je passerai par le chaos, la noirceur et je dirais la terreur pour pouvoir, recréer.
Vous entretenez quelque chose, effectivement, comme si c'était un terreau, un ferment créatif, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous pouvez aller au-delà encore. Puisque le rêve s'achève finalement sur des plaques noires et que vous avez la capacité de les révéler. Donc ce serait intéressant de voir ce qui se révélera derrière.
Excusez mon silence, hein, mais... Alors pourquoi cette peur? Pourquoi c'est ce sang qui se glace en moi, cette frayeur?
Non, ça c'est un jeu. C'est un jeu que vous avez développé autour des figures parentales. Et que vous entretenez parce que c'est un jeu que vous connaissez. C'est une forme de retour toujours, c'est labyrinthique. C'est l'attachement à la névrose.
Oui, tout à fait, ok.
Mais de par les images que vous produisez, de par la dynamique que vous produisez, vous êtes capable de voir au-delà. Puisque là, cette vitre que vous grattez, c'est un œil que vous ouvrez sur une autre dimension. C'est-à-dire, quelle est ma dimension spirituelle? Effectivement, est-ce que je communique avec d'autres parties du monde? Et si vous ouvrez ce cœur, voilà, cette forme qui pourrait rester fermée aux parents, enfin en tout cas aux individus qui ont été vos parents, vous n'ouvrez pas encore cette dimension complètement.
Tout à fait.
Et c'est surtout votre lien au féminin qui est important, puisque ce lien au féminin est quand même encore empreint de cette projection négative.
Tout à fait.
Et pour que vous puissiez entrer véritablement en amour, il est possible que vous ayez besoin de ne plus avoir de colère, donc de dépasser et d'aimer d'aimer réellement ce que vous avez détesté.
Et oui, ouais, c'est 100%.
Sachant qu'il n'y a pas de hasard, que ce que nous rencontrons, ce qui peut nous horrifier, nous éloigner, finalement, c'est ce que nous avons à vivre.
Ok, je crois que ça résonne énormément ce que vous dites. Je comprends pourquoi je freine et je ralentis et je l'entends comme je vois pourquoi je bloque. Ok. J'ai pas envie qu'elle détruise. Je dirais avec des mots simples, hein. J'ai pas envie que son amour détruise mon fils, et ce qui m'a détruit moi, en partie. Voilà.
Non, ça c'était pas de l'amour, c'était de la dévoration.
Ouais, moi je l'appelle, oui. Alors, moi pour moi, ça m'a tellement affecté, j'ai tellement eu d'illusions et tellement de choses. J'ai peut-être pas les mots justes, mais j'ai eu peur qu'à un moment, ça se répercute sur mon petit bonhomme, et qui aujourd'hui. Et c'est pour ça, je me rappelle, ok, je vois le frein que j'ai mis à un moment, j'ai stoppé.
Et de toute façon, il y a une partie de vous, puisque cet individu qui s'engouffre dans le trou, c'est une partie de vous qui commence à entrer dans cette dimension que vous ne savez pas encore nommer, mais il est possible que ce soit celle du cœur. D'un amour donc plus universel, comme une sorte d'amour agapé.
L'amour tel qu'il est.
L'amour agapé qui est l'amour universel, c'est-à-dire l'amour général et non pas l'amour passionnel. Puisque là, en scène, vous nommez deux formes d'amour, c'est l'amour éros, l'amour passion avec votre épouse, et l'amour storgé qui est l'amour pour les enfants, le lien filial, selon la définition grecque. Puisqu'il y a quatre formes d'amour et donc vous êtes dans les deux premières et il restera à développer les deux autres. Filia et agapé.
Quatre formes d'amour, je note ça. Je vais faire.
La dernière dimension étant l'agapé, l'amour universel.
Ok.
aimer l'autre, malgré la noirceur qu'on peut voir chez lui, malgré les projections qu'on peut faire, parce que là, c'est quand même des projections. Être capable de dépasser ses propres ressentiments et aversions.
Tout à fait, tout à fait. Merci, merci.
En tout cas, merci beaucoup Alain pour ce rêve, c'était... C'était un vrai film, quoi. C'était magnifique. On a hâte de le voir sur tous nos écrans en noir et blanc.
Alors, bah, je ne vous cache pas, je me mets à l'écriture. Alors, je n'écrivais pas et, par rapport à ce que vous avez fait en référence. Je m'autorise maintenant encore à mettre en scène des choses. Et je suis sur une phase de réaliser. Voilà.
Très bien, nous attendons vos productions.
En tout cas, moi je vous suis sur votre site, vous m'avez beaucoup aidé à travers votre site sur plein de rêves qui m'ont permis d'avoir des réponses, et voilà, merci, puisque vous apportez aux autres, vraiment Tristan, c'est super chouette.